jeudi 20 juillet ou vendredi 21 juillet pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. Merci d'être à l'écoute de CILS FM, la radio francophone la plus à l'ouest en Amérique. Alexis Gagnon au microphone. Comment allez-vous? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Avant de passer aux différentes revues de presse de cette édition des 20 et 21 juillet, je tiens à vous mentionner que je m'entretiendrai en seconde partie d'émission aujourd'hui avec Madame Marie Robillard, qui évoquera le souvenir de Madame Marie Bourgeois, une grande dame de la francophonie britanno-colombienne qui nous a quittés il y a quelques jours. Avant cet entretien honorant la mémoire de Madame Bourgeois, nous recevrons la visite en studio de notre chroniqueuse Marie-Hélène Bourret, qui nous renseignera sur une décision de dernière heure du gouvernement de Christy Clark vendredi dernier, une décision fortement contestée. Restez à l'écoute, on retrouve tout d'abord la revue de presse internationale dans quelques instants. Bonne émission à tous. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui pour cette édition des 20 et 21 juillet avec une bonne nouvelle? C'est trop rare dans notre monde très agité et en perpétuelle effervescence. C'est en effet ce qu'on trouve dans les colonnes de West France à l'adresse westfrance.fr, le nombre de morts du sida divisé par deux depuis 2005. 1 million de personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2016, soit presque moitié moins que lors du pic de décès atteint en 2005, selon un rapport de l'ONU publié jeudi, qui affirme qu'un tournant décisif a été franchi. Donc il y a de l'espoir dans ce dossier de santé publique. Si ces chiffres sont encourageants, poursuit cet article de West France, les contaminations déclinent toujours à un rythme trop lent. L'Europe de l'Est connaît une explosion de l'épidémie, ce qui inquiète l'organisation ONU-SIDA. Plus de la moitié des malades dans le monde sont désormais sous traitement et le nombre de nouvelles contaminations par le VIH a continué à décliner, mais à un rythme encore trop lent, relate un rapport de l'ONU publié avant l'ouverture ce dimanche à Paris d'une conférence internationale de recherche sur le SIDA. Donc une bonne nouvelle, mais avec un bémol, la maladie recule trop lentement selon les chercheurs. Du côté du journal Le Monde à présent, à propos de politique américaine, affaires russes, Donald Trump désavoue son ministre de la Justice. Le président Trump a estimé que Jeff Sessions n'aurait pas dû accepter sa nomination s'il se savait compromis dans cette affaire. Le ministre prévoit de rester malgré les critiques. À l'occasion de ses 6 premiers mois à la Maison-Blanche, Donald Trump a donné une longue interview mercredi 19 juillet au New York Times, rapporte le journal Le Monde, dans un langage badin, parfois décousu. Le président a défendu son bilan et communiqué ce qui lui passe par la tête sans s'embarrasser de prudence politique. Alors qu'il en vient à dire le plus grand mal de son propre « attorney general », comme on appelle le ministre de la Justice aux États-Unis, Jeff Sessions, l'un des journalistes du New York Times l'a interrompu pour s'assurer que les commentaires sont bien publiables. « Oui », a répondu le président, « vous pouvez l'écrire ». Donc Donald Trump, dans un article récent du New York Times qui a désavoué son propre ministre de la Justice, Jeff Sessions qui avait été pourtant l'un de ses plus fidèles soutiens durant la campagne électorale de 2016. Donc rien ne va plus entre le président et son ministre de la Justice. C'est une nouvelle illustration de l'ambiance chaotique qui prévaut à la Maison-Blanche ces derniers temps, en fait depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier dernier. Donc vous aurez cette nouvelle dans le journal Le Monde. Retour dans les colonnes du média West France à l'adresse westfrance.fr à propos du Japon. Fukushima, de l'eau contaminée, devrait être déversée dans le Pacifique, apprend-on. Plus de 770 000 mètres cubes d'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon devrait être déversée dans l'océan Pacifique. Depuis la catastrophe de mars 2011, cette eau a notamment servi à refroidir les réacteurs. L'exploitant de la centrale attend l'accord du gouvernement japonais. C'est une révélation qui a été faite par le site actuenvironnement.com. Et le site rappelle que cette eau a servi à refroidir les réacteurs au cours des dernières années. Et ces eaux, peut-on lire, s'étaient accumulées. Et l'on s'attend à ce que le gouvernement japonais donne son feu vert à ce déversement prévu par la compagnie TEPCO, qui est l'opérateur du site Fukushima. L'océan Pacifique, bien sûr, c'est notre océan, donc avec les courants marins, cela nous concerne tous. Retour sur un événement qui s'est déroulé il y a plus de 15 ans en Italie, des manifestants torturés à Gênes lors du G8 de 2001, admet le chef de la police. C'est dans tous les médias européens. Aujourd'hui, je vous lis quelques lignes d'un article publié sur le site de RTBF, c'est le service public d'information belge. Des manifestants qui protestaient lors de la tenue du sommet du G8 à Gênes en 2001 ont bel et bien été torturés, a reconnu mercredi le chef de la police italienne Franco Gabrielli. Il s'agit de la plus haute reconnaissance officielle de culpabilité par rapport à ces faits. Franco Gabrielli s'est exprimé un mois après que la Cour européenne des droits de l'homme eut établi pour la seconde fois que des policiers italiens avaient brutalisé des civils à Gênes. Au début du mois, le Parlement italien avait introduit le délit de torture dans la législation, peut-on lire dans cet article. Alors voilà, la torture au cœur de l'Europe, c'était en Italie en 2001. Le chef de la police nationale admet que de la torture a été commise contre des manifestants, c'est dans le portail rtbf.be notamment. D'anciens détenus à Guantanamo demandent l'audition de Bush et de Rumsfeld, c'est dans le portail West France. Le parquet de Paris a requis un non-lieu, mais l'instruction n'est pas terminée pour trois anciens détenus français à la prison américaine de Guantanamo, à Cuba. L'audition en France de l'ex-président George W. Bush et de son ancien secrétaire à la défense Donald Rumsfeld permettrait de faire la lumière sur les faits extrêmement graves qu'ils ont subis. Cela probablement n'ira pas plus loin. C'est une nouvelle, un nouveau geste posé par les anciens détenus de Guantanamo. Rappelons que Omar Kader, le Canadien enfant soldat, a lui aussi été détenu à Guantanamo, cette prison qui s'inscrivait en dehors du droit international, prison dans laquelle Omar Kader a été torturé au début des années 2000. Guantanamo qui continue de défrayer la manchette, c'est dans le portail West France. D'anciens détenus à Guantanamo demandent l'audition de Bush et Rumsfeld. Le département de la justice américain dit avoir démantelé Alphabet. Cette nouvelle paraît dans le fil de l'agence Reuters. Le département américain de la justice a annoncé jeudi avoir démantelé Alphabet, la plateforme du marché noir de la drogue et des armes sur le Dark Web. Alphabet avait mystérieusement disparu ce mois-ci du Dark Web. On considère qu'il s'agissait du plus gros supermarché de la drogue sur le Dark Web, où se monnayaient des substances comme l'héroïne ou le fentanyl. Selon le département de la justice américain, Alphabet permettait à plus de 40 000 vendeurs et plus de 200 000 clients de procéder à des transactions illicites. En permettant la vente d'opioïdes, ce site contribuait à la recrudescence de leur consommation aux États-Unis, a déclaré l'Attorney General Jeff Sessions, le ministre de la Justice, justement, dont il était question un petit peu plus tôt dans cette revue de presse. Le Darknet n'est pas un endroit où s'embusquer, a déclaré Jeff Sessions lors d'un point de presse à Washington pour annoncer le démantèlement d'Alphabet. Le département de la justice américain a fait remarquer que les Pays-Bas avaient déjà réussi à fermer Ansa Market, un autre supermarché du Dark Web. Alphabet, a déclaré Andrew McCabe, qui assure l'intérim à la tête du FBI actuellement, était 10 fois plus important que Silk Road. Silk Road, c'était cette plateforme célèbre au début des années 2010, un autre site du Dark Web où l'on faisait du commerce illicite. Et ce que cet article de Reuters ne mentionne pas, c'est que c'est un Québécois qui était à la tête d'Alphabet, un jeune homme appelé Alexandre Cazès. Il était originaire de Trois-Rivières. Il s'était établi en Thaïlande. Il avait amassé un capital de plus de 20 millions de dollars US. Il a été arrêté par la justice à la suite d'une opération internationale pilotée par le FBI. Il a été retrouvé pendu dans sa prison en Thaïlande. Et voilà, donc c'était un Québécois, un Canadien qui était derrière Alphabet, un site qui est désormais retiré du Dark Web, et on connaîtra sans doute de nouveaux développements au fil de l'enquête. Vous trouverez la nouvelle un peu partout sur le web, notamment dans le fil de l'agence Reuters. Le département de la justice américain dit avoir démantelé Alphabet. On va rester dans le fil de Reuters quelques instants. Bruxelles et Londres étalent leurs divergences sur le Brexit. Négociateurs européens et britanniques sont parvenus à trouver certains terrains d'entente à l'issue de leur première session de discussion, bien que les deux camps continuent d'exprimer des positions marquées par de fortes différences. Au terme de 4 jours de négociations consacrées à des sujets majeurs, le chef des négociateurs européens, Michel Barnier, a fait jeudi le constat de divergences fondamentales entre Londres et Bruxelles. Et si l'on reste encore un petit peu dans le fil de cette agence de presse, Californie, incendie près de la Sierra Nevada et de Yosemite. On voit qu'il y a effectivement des incendies ailleurs que dans l'ouest canadien. Il y en a également dans l'ouest des États-Unis. Plus de 3000 pompiers combattaient jeudi un incendie qui a déjà détruit 29 structures dans le centre de la Californie et contraint des milliers d'habitants à évacuer la zone, les flammes menaçant la petite ville de Mariposa aux abords du parc national de Yosemite, un parc national célèbre dans le monde entier. Transportons-nous maintenant dans le portail de Radio France Internationale à l'adresse RFI.fr. La CIA met fin au programme de soutien aux rebelles syriens. La CIA a décidé de mettre fin à son programme de soutien aux rebelles syriens qui combattent le président syrien Bachar el-Assad, a annoncé cette semaine le Washington Post. Ce programme de soutien initié il y a 4 ans n'a eu qu'un impact limité, particulièrement depuis l'entrée dans le conflit des forces armées russes aux côtés de Bachar el-Assad en 2015, ont confié des responsables américains au quotidien américain le Washington Post sous couvert de l'anonymat. Donc les États-Unis qui revoient un petit peu leur stratégie en Syrie, d'autant plus que ces rebelles syriens, comme on les appelle pudiquement, étaient souvent carrément djihadistes, très radicalisés sur le plan religieux. La CIA donc qui retire son soutien à ces groupes sulfureux de la Syrie. Vous trouverez ça dans le portail de RFI. Dans le cahier Afrique du journal Le Monde, Cameroun, Amnesty International dénonce la banalisation de la torture dans la lutte contre Boko Haram. C'est peut-être une nouvelle que vous aurez entendue dans le bulletin de l'ONU, le bulletin que diffuse CILS FM tous les jours. Au moins 130 hommes et jeunes hommes sont portés disparus depuis 2014 et au moins une centaine ont été tenus au secret et torturés en toute impunité au Cameroun. C'est ce que déplore Amnesty International. Alors la lutte contre Boko Haram ne justifie pas l'emploi de la torture. C'est ce que soulève Amnesty International dans cet appel lancé aux autorités du Cameroun. Vous trouvez ça dans le cahier Afrique du journal Le Monde. On va clore cette revue de presse internationale avec une nouvelle scientifique, une nouvelle à thématique archéologique qui paraît dans l'édition du soir de West France, un nouveau trésor archéologique en Égypte. C'est le titre de cet article qui plaira aux égyptologues en herbe qui nous écoutent. Des scientifiques pensent avoir trouvé le tombeau d'Ankhesenamon, le mystérieux amour de Toutankhamon, le pharaon qui a régné sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Cette découverte rappelle les légendes qui entourent le tombeau de Toutankhamon révélé il y a maintenant un siècle. Alors Toutankhamon, bien sûr, c'est un pharaon très célèbre puisqu'on a retrouvé son trésor, un trésor qui a été présenté dans les plus grands musées du monde. On a maintenant trouvé le tombeau de son épouse, nous informe cet article, son épouse qui était aussi sa demi-sœur. Vous trouverez ça dans l'édition du soir de West France, un nouveau trésor archéologique en Égypte. On referme cette revue de presse internationale dans l'édition des 20 et 21 juillet du débrief. Merci de rester à l'écoute de votre station communautaire francophone locale. Alexis Gagnon au micro. Je vous retrouve dans un instant avec la revue de presse canadienne. À tout de suite. Si vous venez d'allumer votre poste ou de vous rendre à l'adresse cilsfm.ca, vous êtes dans l'émission Le Débrief, édition des 20 et 21 juillet. Merci d'être à l'écoute. Nous allons passer à la revue de presse nationale à présent. Tout d'abord, dans le fil de l'agence France Presse, une nouvelle concernant le libre-échange États-Unis-Canada. Renégociation du libre-échange, 50 000 emplois américains en jeu, selon cette dépêche de l'AFP. Un retrait des États-Unis de l'accord de libre-échange nord-américain et une possible taxe aux frontières pourraient entraîner jusqu'à 50 000 pertes d'emplois dans l'industrie automobile américaine, a averti mercredi une organisation patronale américaine. Des politiques fiscales et commerciales qui forcent les entreprises à relocaliser les emplois ne marchent pas, a déclaré Steve Anshu, le président de MEMA, lors d'une conférence de presse. La vitalité de l'industrie automobile dépend d'une chaîne d'approvisionnement globale et intégrée, avec des usines aussi bien au Canada, aux États-Unis qu'au Mexique, a renchéri Xavier Mosquet, qui a supervisé une étude sur les effets qu'aurait une renégociation de l'accord de libre-échange ALENA, ou le NAFTA, selon son acronyme anglais. Vous trouverez cette nouvelle dans la section affaires du portail du journal La Presse à l'adresse lapresse.ca. Renégociation du libre-échange, 50 000 emplois américains en jeu. Une nouvelle à thématique francophone qui concerne l'ensemble du pays, 150e du Canada, Universal Music s'excuse de ne pas avoir inclus de chansons francophones dans sa compilation anniversaire. L'entreprise a présenté ses excuses très formelles sur Twitter. Vous trouverez cette nouvelle dans le portail du Huffington Post. Côté francophone, c'est sous la plume de la journaliste Sarah Daou Brown. Universal Music Canada a essuyé de nombreuses critiques il y a quelques jours après avoir lancé une compilation musicale pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, compilation musicale qui n'inclut aucune chanson en français. La compagnie a sorti à la fin du mois de juin Canada 150, A Celebration of Music, une compilation de 6 CD sur lesquels figurent de nombreux artistes de la chanson canadienne dont Leonard Cohen, Justin Bieber, Avril Lavigne et Michael Bublé. Le hic dans tout ça, demande la journaliste Sarah Daou Brown dans cet article du Huffington Post. Le hic, c'est que les seuls artistes francophones à faire partie de ce palmarès sont Daniel Lanois et Céline Dion, mais les pièces qui ont été choisies sont en anglais. En réaction donc aux vives critiques qui lui avaient été adressées, Universal Music Canada a présenté ses excuses sur Twitter. Vous trouverez cette nouvelle un peu partout sur le web, notamment dans le portail du Huffington Post. 150e du Canada, Universal Music s'excuse de ne pas avoir inclus de chansons francophones dans sa compilation. À ce sujet, d'ailleurs, on a eu de nombreux éditoriaux et chroniques dans le Journal de Montréal, notamment sous la plume d'André Péloquin, une chronique intitulée « Une mauvaise blague ». En scrutant Canada 150 sous ses différentes formes, a-t-il écrit, on constate que la contribution francophone est absente. Pas de Félix Leclerc, ni de Cœur de pirate ou de Carquois. Carquois qui avait pourtant gagné le prix Polaris du meilleur album canadien de l'année 2010, rappelle le chroniqueur dans cette chronique paraissant dans le portail du Journal de Montréal. Une mauvaise blague pour le 150e du Canada, c'est le titre de cette chronique signée par André Péloquin. Un mot sur les incendies de forêt qui ravagent la province. La Colombie-Britannique prolonge l'état d'urgence. Il en a été question brièvement en fin d'émission hier dans l'édition du 19 juillet. C'est dans le fil de la presse canadienne. Le nouveau gouvernement de la Colombie-Britannique prolonge l'état d'urgence de 2 semaines alors que les incendies de forêt continuent de balayer la province. Le nouveau premier ministre John Horgan a affirmé mercredi qu'un soutien additionnel est nécessaire pour les communautés touchées et pour celles qui participent à la lutte contre les incendies. Voilà pour ce bref tour d'horizon des nouvelles nationales et provinciales. Nous allons nous rendre aux interviews du jour en débutant avec la chronique de Marie-Hélène Bourret sur une décision contestée et fortement critiquée des libéraux de Christy Clark dans les dernières heures de leur pouvoir de 16 ans sur la province. Une décision qui a été prise vendredi juste avant de confier les rênes au parti néo-démocrate de John Horgan. Ensuite, après cette chronique de Marie-Hélène, nous aurons l'entretien téléphonique réalisé un peu plus tôt aujourd'hui avec Madame Marie Robillard à propos du décès de la grande pionnière de la francophonie britanno-colombienne, Marie Bourgeois. Restez à l'écoute. L'info se poursuit dans l'émission Le Débrief. Merci d'être à l'écoute de votre station communautaire francophone préférée dans la grande région de Victoria. J'accueille en studio Marie-Hélène Bourret.
Bonjour Alexis.
Bonjour Marie-Hélène. Alors l'actualité ne prend pas de vacances, Marie-Hélène, es-tu d'accord?
Et c'est malheureusement souvent des actualités qui sont un peu tristes.
Oui, en effet, on vit dans un monde un peu cinglé. La politique provinciale dernièrement nous donne beaucoup de matière à réflexion, matière à critique.
S'indigner.
Oui, voilà, matière à s'indigner, malheureusement. On a eu un changement de gouvernement, vous le savez, le feuilleton électoral britanno-colombien s'est terminé il y a quelques jours avec l'entrée au pouvoir du gouvernement piloté par John Horgan.
Supporté par les Verts.
Supporté avec les Verts d'Andrew Weaver, oui, c'est vraiment capital. Mais dans les dernières heures du gouvernement libéral de Christy Clark, on a assisté à une manœuvre, disons, peu fair play.
Très, très peu délicate, très insensitive.
Oui.
Tu sais, qui ne prend pas en considération beaucoup la situation humaine.
Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Vous allez le savoir, ça s'est produit dans les toutes dernières heures du gouvernement libéral qui en a profité pour effectuer justement prendre une décision dans un dossier environnemental clé, un dossier qui touche les Premières Nations.
La nation Tsilhqot'in qui est le plus particulièrement touchée par cette décision.
Voilà.
Qui a été prise le 14 juillet. Mais qui a été annoncé le lundi suivant, donc le 17 juillet.
Oui.
Et quelle était cette décision?
En toute fin de parcours, finalement.
Oui.
Alors, la décision du gouvernement de Christy Clark, dans ses dernières heures, a été de donner un permis à une compagnie minière qui s'appelle Taseko, une compagnie minière qui veut exploiter or et cuivre dans une région de la Colombie-Britannique. C'est une mine à ciel ouvert qui serait située
oui.
sur le territoire d'une première nation, la nation, comme tu le disais, Tsilhqot'in.
Oui.
Voilà. Donc, cette décision a fait sursauter les membres de cette Première Nation-là, puisque c'est un projet qui, bien sûr, en amont, a suscité de nombreuses critiques. C'est un projet qui présente des failles importantes, des problèmes.
Ben écoute, le gouvernement fédéral a refusé à deux occasions d'autoriser. On sait que du côté des mines, les mines, c'est de manière générale fédérale. Alors, le fédéral prend les décisions, oui, non, et après ça, ça descend au niveau de la province qui dit oui ou non.
Voilà.
Il est arrivé en quelques occasions où les gouvernements provinciaux ont autorisé, si on veut, de manière à influencer peut-être le gouvernement fédéral.
C'est pour manifester leur soutien.
Ouais.
Ils le font dès le début des consultations ou du processus d'évaluation pour signaler au gouvernement fédéral qu'ils sont entièrement d'accord avec tel ou tel projet. Et ce fut le cas pour ce projet de mine à ciel ouvert qui s'appelle New Prosperity Mine.
La prospérité pour qui, on se le demande?
Voilà, prospérité pour Taseko, point barre.
Mais aussi pour le Parti libéral de la Colombie-Britannique, puisqu'ils ont obtenu plus de 120 000 $ de la part de cette compagnie-là pour mettre dans la caisse du parti. Est-ce qu'il y a eu une influence? Est-ce qu'il y avait peut-être une faveur à donner?
Le nombre de ces cas de figure est tellement grand ici en Colombie-Britannique qu'on finit par comprendre qu'il s'agit de clientélisme, de ce qu'on appelle du crony capitalism en anglais. Donc, une relation contre nature entre nos élus et des entreprises qui financent leur coffre, qui financent leur campagne. Alors, effectivement, comme tu le dis, cette compagnie minière avait largement et généreusement garni les coffres du Parti libéral de la province.
Est-ce que ça implique, comme travaux pour ce parc, parce que c'est un parc qui est protégé, c'est 76 kilomètres de nouveaux sentiers Alors, oui. Pour faire un sentier, tu arrives avec une grosse machine, tu arraches tous les arbres, tu refais un peu l'hydrographie de l'endroit aussi, parce que quand on dit sentier, on dit un barrage.
Voilà,
hein,
et ça, c'est probablement des routes carrément pour que la machinerie puisse circuler.
Ça. Alors, on va faire des trous aussi, on va faire des fosses ou des creusés. On va faire des trous avec des... comment ça on dit, une drill en français?
Des excavateurs, des grues.
Des grues, il va avoir aussi 20 km de ligne sismique. Alors ça, c'est pour vérifier s'il y a un danger d'exploiter la mine dans une portion donnée de territoire en rapport avec les tremblements de terre. On sait que la Colombie-Britannique, évidemment, est hautement à risque.
Oui, donc ça, ce sont des travaux préparatoires.
Oui.
Parce que après, là, on aura sur les bras une mine à ciel ouvert en plein territoire d'une Première Nation. C'est une section de la province qui est protégée.
Oui, c'est dans le coin de Fishlake, il faut dire, pour les gens qui ne savent pas.
C'est ça.
Ouais. Et il y a d'autres choses, c'est que l'exploitation de l'or, c'est l'une des exploitations les plus polluantes de l'eau. Alors, dépendamment de ce qu'ils font, il y a beaucoup de compagnies canadiennes à qui on a jeté la pierre parce qu'elles étaient allées en Amérique du Sud exploiter, en Afrique exploiter, et elles ont totalement détruit l'environnement terrestre, mais aussi l'environnement aquatique. Alors, les gens de cette nation disent que ils ont peur.
Oui, quelles ont été leurs réactions, justement?
Ils ont vraiment peur pour... premièrement, c'est leur terre. Oui. On n'a pas d'affaire à aller là sans leur autorisation. Déjà qu'on les a parqués dans ces réserves-là, en plus, on leur enlève le peu de droits qu'ils avaient de façon constitutionnelle, parce que c'est marqué dans la Constitution, ça leur appartient. On va polluer leur eau, alors ils ont besoin du saumon pour leur survie. Mais en plus, c'est situé dans un parc que eux considèrent comme étant une terre sacrée. Alors, c'est cérémoniel pour eux, c'est rituel. C'est un peu comme pour les Blancs, par exemple, de les non-indigènes, d'aller dans un cimetière et de désacraliser un cimetière.
D'accord.
C'est énorme.
Profané.
C'est une profanation de leurs droits, mais aussi de leur culture.
Alors, on peut... au moins se consoler en sachant que la province n'a pas le dernier mot dans ce dossier.
Absolument. Mais avec la façon dont on voit que le gouvernement fédéral est en train de pousser Kinder Morgan, alors que notre province ici, avec le nouveau gouvernement, pas avec l'ancien, avec le nouveau gouvernement, tout le monde est contre, il y a des opérations citoyennes, il y a des gens des Premières Nations qui ont fait un regroupement, qui sont contre Kinder Morgan. Pardon.
Oui, l'expansion du pipeline Trans Mountain, un triplement de la capacité, ça c'est un autre sujet dont on parle fréquemment.
Ouais.
Alors, dirais-tu que cette autorisation de dernière heure procurée par le gouvernement Clark était un geste cynique?
Pour moi, ça marque le manque total de connexion entre l'argent et les gens.
Et la volonté populaire, la volonté ici, en l'occurrence, des Premières Nations, qui devaient, au moment où l'autorisation a été consentie, lutter contre les incendies.
Oui.
Alors, ils en avaient plein les bras. Ils étaient mobilisés pour combattre les incendies au moment où, dans les dernières heures du gouvernement Clark, cette autorisation était consentie. Donc, ils ne pouvaient pas répondre de façon correcte et cohérente.
Mm.
Et c'est justement ce que le chef qui est interviewé dans l'article déplore.
Ouais.
La manière par laquelle le gouvernement mourant, agonisant de Christy Clark a procédé était vraiment déplorable. On peut supposer que le gouvernement de John Horgan va reculer et annuler ce permis.
Selon moi, il n'est pas encore autorisé par le fédéral, puisque le fédéral a déjà refusé deux fois. Mais je pense que ça serait un acte de bonne volonté que de dire, changement de gouvernement, changement de règlement, non, on retire le permis en attendant de faire études ou peu importe. Et les études, évidemment, vont prouver. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans l'article du TAI, c'est que l'avocat pour le Pacific Center for Environmental Law and Litigation, Chris Tuffelson, Il dit, lui, que même s'il n'y a pas de règlement empêchant un gouvernement de donner des permis dans les derniers jours où il est au pouvoir, et ici je cite, il dit, il y a quand même une obligation de la couronne et du gouvernement de se conduire de manière qui
honorable
honore effectivement oui. la couronne.
Alors ici, en l'occurrence, vraiment des manœuvres de bas étage.
Ouais.
On a joué la montre, on a joué le chronomètre dans les dernières minutes du gouvernement Clark. On attendra bien sûr la réponse du fédéral. On verra aussi ce que John Horgan va faire avec cette autorisation mal avisée. Tandis que on parle de ressources, on peut aussi mentionner rapidement le cas Kinder Morgan pour compléter cette chronique, Marie-Hélène. On sait que les incendies ravagent certains secteurs de la province. Il en a été question justement à propos de cette mine à l'instant. Le pipeline Trans Mountain traverse toute la province. On le sait, il traverse des zones d'incendie. Et il y a quelques jours, une Première Nation a justement pointé du doigt le danger que pose ce pipeline dans des situations d'incendie de forêt.
Oui, je m'excuse d'avance de la façon dont je vais le prononcer. C'est l'Assemblée des Sekwepemc ou Lekwepemc. Et je m'excuse là, de mon manque de connaissances. Donc, eux, ils demandent un moratorium. Un moratoire, pardon, pour justement empêcher là le transport d'huile crue ou de bitumen à travers les grands territoires territoriaux qui leur appartiennent, traditionnels, pardon, qui leur appartiennent. Alors, là-dedans, il y a des forêts, il y a des champs, il y a des rivières, il y a des lacs qui viennent depuis les Rocheuses jusque dans l'océan. Et c'est ça qu'il faut comprendre quand on parle de pipeline. Les gens disent, ah ben regarde, ils vont le savoir quand il va avoir une fuite un instant là. Quand on sait combien de temps ça prend à des pompiers, par exemple, à se rendre sur les lieux d'un feu, c'est dans des endroits extrêmement retirés.
Extrêmement isolés, oui.
Isolés. Les gizmos, les bidules, les espèces de machins qui mesurent la pression dans les oléoducs.
Oui.
Ils sont mis à 1 kilomètre d'intervalle. Alors, il faut que tu sois capable de trouver rapidement. Donc, une fois, oh, il y a une fuite là, on prend un hélicoptère, on se rend à bonne place. Est-ce qu'on est capable de se rendre? Bon, ça peut prendre des heures et des heures. Et la fuite, elle est quelque part dans 1 kilomètre.
Et comme tu le disais, les incendies sont maintenant la norme et non plus l'exception.
Non.
Les incendies de forêt, il va y en avoir de plus en plus avec le phénomène du changement climatique qui touche toute la planète et qui se manifeste ici, bien sûr, en Colombie-Britannique. Je vais indiquer le titre de cet article. « Fires spark call for pipeline shutdown ». Alors, des anciens, des elders de cette nation, première nation britanno-colombienne, appellent à la fermeture du pipeline en raison de l'augmentation du phénomène des incendies dans la province et sur leur territoire. Et l'un des anciens, l'un des chefs de cette Première Nation indique qu'ils refusent entièrement le passage du Trans Mountain sur leur territoire et exhorte les investisseurs de Kinder Morgan à prendre bonne note parce que leur détermination vraiment est féroce dans ce dossier.
Oui, c'est vraiment très dur, comme quand il le dit en anglais, là, c'est très très dur son avertissement contre les investisseurs.
À bon entendeur, salut.
Voilà.
Alors, le dossier Trans Mountain continue d'alimenter l'actualité. Je vais aussi indiquer le titre de cet article duquel on tirait nos infos à l'instant, donc à propos de cette mine à ciel ouvert pour laquelle Christy Clark a donné un permis dans les dernières heures de son gouvernement. BC Liberals issue mining permits in Tilcotin Territory as wildfires rage. Vous trouverez ça facilement sur la page d'accueil du média indépendant de Taï. Notre média indépendant ici sur l'île de Vancouver, ils ont leur quartier général ici même à Victoria. Bonne lecture à tous les auditeurs qui s'intéressent à ce dossier. Marie-Hélène, à très bientôt pour de nouvelles discussions.
À plus tard. We'll be right back.
Vous êtes toujours à l'antenne de CILS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info en fin de journée à l'antenne de votre radio communautaire locale. J'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Madame Marie Robillard. Bonjour Madame Robillard.
Bonjour.
Alors, c'est à propos d'une nouvelle un peu triste qu'on se parle aujourd'hui. On évoque le décès de Madame Marie Bourgeois, une figure emblématique de la communauté francophone et francophile de la province de Colombie-Britannique. C'est une nouvelle que nous avons relayée à nos auditeurs hier. Et je suis heureux de vous avoir au bout du fil pour pouvoir parler de cette grande dame de la francophonie britanno-colombienne. Je rappelle à nos auditeurs, Madame Robillard, que vous êtes l'une des pionnières de la francophonie ici à Victoria. Vous êtes très proche de la société francophone de Victoria et vous avez bien connu Madame Marie Bourgeois, dont on a déploré le décès cette semaine. Vous l'avez connue dans quelles circonstances?
Ben, je l'ai connue lorsque j'allais à Vancouver. Dans les années 86, 87, 88, nous avions deux réunions des présidents et une réunion annuelle. Tous les ans, nous y allions à peu près trois fois par année à Vancouver. Et Marie Bourgeois, je crois qu'elle a été élue en 89 et j'étais là.
Oui,
nous étions
exact.
Bien contentes. Et puis, Marie Bourgeois, c'est une grande dame. C'est une personne qui accueillait les gens toujours avec un grand sourire. Nous l'aimions bien. Et puis, je me rappelle Marie Woolridge. Nous étions trois personnes qui s'appelaient Marie à l'époque et on nous mélangeait un peu. Mais enfin, Marie Woolridge m'avait dit comment elle était heureuse de voir que Marie Bourgeois était la présidente. Et Marie Bourgeois avait comme, pour l'appuyer, la directrice générale qui était Isu Friollet. Alors, Marie Bourgeois a fait un travail un travail énorme à la Fédération. La Fédération a vraiment fait des pas de géant pendant les années que Marie Bourgeois a été la présidente. Et puis après ça, Marie Bourgeois a beaucoup travaillé avec Madame Galibabar, Madame NSC aussi, Nicole NSC. Elles ont beaucoup travaillé pour l'obtention des écoles françaises à Victoria et puis pour la commission scolaire. Marie Bourgeois était, je crois, la présidente un bout de temps de la commission scolaire. Et puis, Marie Bourgeois a aussi été la directrice générale de la Maison de la Francophonie.
Oui.
Et puis, je dois dire que Marie Bourgeois elle prenait toujours le temps de nous répondre si nous avions des questions. Elle est même venue à Victoria pour nous parler parce qu'à l'époque, peut-être un peu plus tard, là, une couple d'années plus tard, je voulais voir si nous pouvions avoir que la société francophone pouvait avoir acheté quelque chose, comme les gens de Vancouver avaient acheté la Maison de la Francophonie.
Oui.
Puis je lui avais demandé si elle a accepté de venir à Victoria nous parler à ce sujet ici. Elle nous disait que c'était pas facile. Et puis, quoi dire de Marie Bourgeois, son grand sourire. Elle avait un sourire éclatant. Et puis, elle parlait, elle nous accueillait, qu'on soit n'importe qui, elle avait toujours un beau sourire. Et puis, elle a fait un travail fantastique pour la Fédération, pour la Maison de la Francophonie, puis pour aussi les écoles francophones en Colombie-Britannique.
Oui, vous avez souligné.
C'est dommage.
Vous avez souligné.
Elle aurait pu.
Allez-y.
Oui, excusez-moi.
Allez-y.
Elle aurait pu aussi être en politique. Je crois que les partis politiques l'ont approchée. Elle parlait tellement facilement dans les réunions. C'était très, très facile pour elle. Je l'admirais beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup de peine de savoir qu'elle... Mais je savais qu'elle avait Alzheimer.
Oui.
Et puis, ce sera pas bientôt qu'on pourra remplacer Marie Bourgeois.
Oui, c'est un décès qui a causé beaucoup de peine dans la communauté. Vous avez souligné à juste titre qu'elle a été, en plus d'être présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique entre 1989 et 1993, vous avez souligné à juste titre qu'elle a aussi été directrice générale de la Maison de la francophonie, mais aussi présidente du Conseil scolaire francophone. Elle a contribué, comme vous l'avez dit, à l'emménagement des bureaux de la FFCB au sein de la Maison de la francophonie à Vancouver. Et ça a été une grande militante des langues officielles au Canada. Elle est membre de l'Ordre du Canada et aussi membre de l'Ordre des francophones d'Amérique, comme le soulignait le communiqué de la Fédération des francophones de Colombie-Britannique émis cette semaine. Madame Robillard, grand merci pour ce témoignage sur cette grande dame de la francophonie britanno-colombienne. Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour partager votre expérience et votre connaissance de cette grande personnalité.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Très bien, merci. À bientôt.
Au revoir.
C'est déjà tout pour cette édition des 20 et 21 juillet. Merci de votre fidélité. Merci de syntoniser le 107.9 FM dans la grande région de Victoria. On se retrouve demain, 21 juillet, même heure, même fréquence. À très bientôt. Nous allons nous laisser sur une pièce de l'Orchestre national de jazz de Montréal intitulée « Chant ».
Bonjour, je m'appelle Christopher et vous écoutez CLS FM à Victoria.
Bonjour, c'est Marcia Pilote qui vous parle, auteure du livre « À la vie, à la mort ». Cette semaine, je suis l'invitée d'Amélie Boivin-Anfield à Samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend.
Samedi de lire, ce samedi 17h et en rediffusion dimanche 11h.
Bonjour, ici Alain François, vous êtes à l'écoute de CILS FM, la seule radio communautaire francophone du côté ouest des Rocheuses. 107,9, Radio Victoria.
Rendez-vous à l'aurore. On peut taper du pied, oublier le monde, les yeux fermés, le rire courant sur nos bras. Nous guide pas à pas, loin des mots de matin, loin de notre avenir incertain. Ce soir, on va danser pour tout oublier. Rendez-vous à l'aurore. Rendez-vous à l'aurore. Laissons mon cœur endiablé, mettre le feu à nos souliers. Dansons la nuit de toutes nos portes. Rendez-vous à l'aurore. Le jeu, le plancher et ton brasier danse jusqu'à te perdre dans les machines à fumer. Laisse-toi aller de toute ta sincérité. Montre à tous que les étoiles peuvent briller de toutes leurs flammes. Rendez-vous à l'aurore. Rendez-vous à l'aurore. Laissons nos cœurs endiablés, mettre le feu à nos souliers. Dansons la nuit de toutes nos portes. Rendez-vous à l'aurore. Quand l'hiver délaissé, quand les bars à demi fermés auront fini de te boire, fini de te faire croire à la vie en rose, au grand retour. Même plongé dans le noir, le ciel arbore ses étoiles. Nous serons deux si tu veux. Rendez-vous à l'aurore.
Sentir broyer du noir. Quand tu pleures, j'ai mal. Ton chagrin, je n'arrive pas à le voir. Quand je suis avec toi, mon cœur s'emballe. Tu es tellement belle, animal rebelle, ça me parle. J'aimerais bien m'en aller. Fuir
le soleil refait surface. Je suis bien, il fait chaud comme un été dans l'eau de ses pas. On a besoin de s'aimer, se dire toute la vérité. Je prends les rênes, car j'ai tombé.
On peut se poser, poser, se poser sur le toit du monde. On va s'envoler, s'envoler, pour se poser sur le toit du monde. On va se poser, poser, se poser sur le toit du monde. On ira juste toi et moi sur le toit du monde.
Vous êtes à l'écoute de CILS FM 107,9, votre radio communautaire francophone à Victoria.
Bonjour, je m'appelle Jocelyne Petit et vous écoutez CILS FM à Victoria.
Allô la planète avec Éric Lange.
Et c'est parti, monsieur, dame, allô la planète numéro 159. Allons-y, tout à l'heure on sera avec Emmanuel et Christophe qui reviennent d'un long voyage en Amérique latine. Ils ont passé 2 ou 3 mois dans un bidonville au Pérou, à Lima, il faut qu'ils nous racontent ça. Ulysse, c'est un âne, Jean-Marie, c'est un monsieur, ils sont ensemble. Bah, c'est écrit sur la page Facebook de Jean-Marie, en couple avec Ulysse. Et ils partent autour de la France, tous les deux, à pied évidemment. Lui et son âne. Des voyages en âne. On en a déjà eu hein, dans l'émission, les voyageurs en âne. Et on démarre avec notre amie Constance.
Allô la planète, avec Chapka.
Comment va Constance? Bonjour, bienvenue Constance.
Merci, ça va très bien.
Ça va bien, parle bien dans le téléphone ma chère Constance.
Oui.
T'es où là?
Je suis à Angers, chez moi, dans ma ville.
On s'est déjà parlé, tu es la blogueuse de voyage dénommée la planeuse Supertramp. Un nom bizarre, mais si je me souviens bien, tu m'avais raconté, c'est parce que t'es, au départ dans ta vie, t'étais prévue pour bosser dans la pub, c'est ça?
Exactement, avec le métier de planeur stratégique. Et en fait, j'ai gardé finalement le pseudo de planeuse et j'ai rajouté Supertramp pour l'aspect un peu vagabond.
Voilà, planeuse stratégique. Tu te rends compte, il y a des métiers, tu peux pas savoir ce que c'est si t'es pas dedans. Hein. C'est planeur stratégique.
Exactement.
Et rappelle-nous en deux mots, donc quand t'as essayé planeur stratégique, tu te dis, oh, je vais arrêter finalement. Je vais pas faire ça, moi. J'allais me promener. C'est ça? Allô?
Allô? Oui.
Ouais, je t'entendais plus. Ouais, c'est ça, quand t'as essayé ton métier, t'as vite arrêté.
Bah, en fait, oui, c'était un métier qui travaillait dans une agence de pub, et puis j'ai rapidement déchanté, et puis, même si j'ai gardé le nom, le métier en tant que tel ne m'a jamais accroché.
Voilà.